Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, vos oreilles sont branchées sur l'AFP, vous écoutez Fragments d'Amérique, le podcast de la rédaction aux États-Unis. Je suis Antoine Boyer, ravi d'être à vos côtés pour ce sixième numéro enregistré en mars 2019.
Well, welcome back. We're following this breaking news out of Sutherland Springs, Texas. A shooting taking place at the First Baptist Church there.
We are following an active shooter situation in the area of Wilkins and Shady in Pittsburgh.
À chaque fusillade de masse, ce terrible refrain tourne en boucle à la télévision américaine. Avec les mêmes images, les mêmes débats, les chiffres sont sans appel. Il y a en Amérique plus d'armes que d'habitants et près de 40 000 personnes en sont mortes en 2017, un chiffre qui comprend les suicides. Écoles, campus universitaires, hôpitaux, lieux de culte, cinéma, les balles sifflent n'importe où. De la fusillade de Columbine il y a 20 ans à celle du lycée de Parkland le jour de la Saint-Valentin 2018, nos journalistes racontent et interrogent ces drames. Fragment d'Amérique, épisode 6, les fusillades, un cauchemar américain.
President Donald J. Trump!
Not my president!
So that we can keep making America great again.
Brigitte Dussault, bonjour.
Bonjour Antoine.
Tu es la directrice de la région Amérique du Nord pour l'AFP et tu habites aux États-Unis depuis plusieurs années déjà. Il y a 20 ans, tu as été envoyée dans le Colorado pour couvrir la fusillade dans le lycée Columbine le 20 avril 1999, un massacre qui avait fait 13 morts. Pourquoi, à ton avis, la fusillade de Columbine, elle a été un tel traumatisme pour l'Amérique ?
Je dirais d'abord à cause de la brutalité atroce. Il faut savoir que c'était deux jeunes de 17 et 18 ans, plutôt de bonne famille, qui avaient préparé depuis un an. Ils avaient préparé des dizaines de bombes artisanales, ils s'étaient armés, enfin ils avaient fait acheter des armes par quelqu'un d'autre parce qu'ils étaient trop jeunes. Et en fait, ils avaient prévu de faire exploser deux bombes dans la cantine à 11h30 du matin quand il y avait 400 élèves. Ils avaient aussi mis des bombes dans leur voiture pour que quand les services de secours arriveraient sur le parking, les bombes explosent. En fait, ça n'a pas marché. Donc finalement, ils sont rentrés dans le lycée. Ils ont tiré notamment sur l'entraîneur de softball qui essayait de donner l'alerte. Et ils sont rentrés dans la bibliothèque. Et à l'époque, on disait aux élèves « cachez-vous sous les tables ». Donc c'est ce qu'ils avaient fait. Et donc, un par un, ils ont tiré sur les élèves, parfois en commentant, en disant des horreurs. Après, ils ne savaient plus trop quoi faire parce que la police n'était toujours pas rentrée dans le lycée. Donc ils se sont baladés dans les couloirs. Ils sont revenus à la bibliothèque et ils sont arrivés à 11h19 et à 12h05 peut-être, ils se sont suicidés dans la bibliothèque. Et ça a été atroce aussi parce que la police a mis un temps fou pour intervenir. Il a fallu 2 heures pour qu'ils réalisent que les jeunes s'étaient suicidés, 3 heures pour qu'ils arrivent jusqu'au professeur qui a agonisé, qui a perdu tout son sang et qui est mort sur place avant même les secours. Tout ça, l'Amérique a été beaucoup traumatisée. Et puis ils ont découvert que ces deux jeunes, de famille normale, entre guillemets, pouvaient préparer pendant un an une telle opération que personne s'en était rendu compte.
Quelles ont été tes impressions quand tu es arrivée sur place ?
Quand je suis arrivée, il y avait déjà sur place un mémorial, des gens qui pleuraient, des gens qui se serraient dans les bras. Enfin, toutes ces scènes qu'on a vues depuis, revues et revues et revues encore. Ces cartes postales, ces poèmes, ces bougies. Et je me souviens, dans ce mémorial, il y avait une balle de baseball. Ça semble ridicule, mais en fait, le seul adulte tué ce jour-là, c'était le professeur de softball qui entraînait les filles. Et plein de gens avaient signé sur cette balle de baseball pour lui rendre hommage. Et de la même façon, il y avait une petite voiture rouge qui appartenait à une élève qui avait été tuée. Et des gens, elle était couverte de fleurs et des gens avaient écrit « Tu vas nous manquer ».
Aujourd'hui, 20 ans après, ça fait exactement 20 ans. Si je te dis Columbine, quelles sont tes premières pensées ?
Ces deux adolescents de 17 et 18 ans en pardessus noir, tout ce que ça a révélé sur la société américaine, sur son incapacité à régler ce problème des armes à feu. La prise de conscience aussi peut-être du bullying, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bullying ici, c'est les mauvais traitements entre élèves. Il y en avait pas mal, semble-t-il, à Columbine. Et les deux tueurs, ça n'excuse rien, mais se sentaient un peu mis de côté par les autres.
This is a CBS News special report. That school shooting at the Columbine High School in Littleton, Colorado.
Bonjour Katie Schubauer.
Bonjour Antoine.
Alors Katie, tu es journaliste vidéo à l'AFP, tu es américaine. Tu avais quel âge au moment de la fusillade de Columbine le 20 avril 1999 ?
J'avais 7 ans.
Et tu te souviens de ce jour-là ?
Le jour exactement, pas vraiment, car j'étais très jeune. Mais pour les Américains, c'est quelque chose connu par tous. Pour moi, comme pour beaucoup de jeunes Américains, je crois, Columbine est synonyme de massacre ou fusillade. Et à ce moment-là, c'était la fusillade le plus meurtrier dans un lycée aux États-Unis. Donc, c'était choquant que quelque chose comme ça pouvait se passer dans un endroit où jusqu'à ce moment, on considérait comme un endroit sûr.
Ensuite, en 2007, il me semble que tu es au lycée et il y a le massacre de Virginia Tech qui arrive. Donc, c'est un étudiant qui tue 32 personnes sur le campus d'une université en Virginie. C'était quoi ta réaction, toi, à ce moment-là ?
Même réaction qu'avec Columbine, il y avait toujours ce sentiment que non, pas ici, pas nous. Et moi, j'avais jamais peur au lycée, même avec le massacre de Virginia Tech. Je pense que le moment où ça m'a touchée le plus, c'était à l'université et c'était le 5e anniversaire du massacre de Virginia Tech. Et une de mes amies à Cornell avait une amie qui était une des 32 victimes de cette fusillade. Et donc, elle a organisé une manifestation contre des armes à feu. Et c'était un sit-in silencieux sur la pelouse du campus. Et j'étais assise à côté d'elle et je me souviens de l'avoir vue pleurer si fort. Et pour moi, c'était le moment où je me disais, OK, vraiment, ça peut toucher mes amis, ça peut me toucher. Quelques mois plus tard, il y avait le massacre de Sandy Hook, qui était une école où 20 petits-enfants de moins de 8 ans et 6 enseignants sont morts dans une fusillade. Donc ça, c'est le moment où je crois que beaucoup d'Américains se sont rendus compte que nous avons une vraie épidémie.
Inside, little kids are under attack.
We heard all this racket at our classroom.
C'était absolument affreux. C'était 15 jours avant Noël. Et effectivement, un jeune de 20 ans qui avait de gros problèmes psychologiques est entré dans cette école primaire, dans une petite ville paisible qui est à une heure de New York. Il a fait exploser la porte d'entrée parce qu'elle était fermée à clé en raison des mesures de sécurité qui avaient été mises en place dans beaucoup d'écoles après Columbine. Il a mitraillé le hall d'entrée, il a tiré sur les enseignants ou les personnels qui s'interposaient et il est rentré dans une première classe de CP. CP, c'est des gamins de 6 et 7 ans, donc tout petits. Il en a tué 15. Il est ressorti, il était dans une autre classe de CP. Il en a tué un peu moins parce que là, effectivement, les enseignants avaient déjà pris des mesures pour protéger une partie des enfants. Ensuite, il s'est suicidé. Ça a duré en tout 5 minutes. En 5 minutes, il avait un fusil d'assaut. Il a tiré 156 balles.
Et est-ce que la question des armes à feu revenait à l'époque de Sandy Hook, à ce moment-là ?
Oui, bien sûr. À l'époque, c'était donc Obama qui était président. Comme tu l'as dit, il avait les larmes aux yeux quand il est revenu une énième fois pour parler de ce massacre. Je crois qu'il a parlé au moins 16 fois à la nation pour dénoncer les massacres, Obama.
Nous avons connu beaucoup trop de tragédies de la sorte au cours de ces dernières années. Ce soir, Michel et moi ferons ce que tous les parents en Amérique vont faire. Nous allons serrer nos enfants un peu plus fort. Nous allons leur dire que nous les aimons et nous allons nous rappeler à quel point nous nous aimons. Mais il y a des familles dans le Connecticut qui ne peuvent plus faire ça ce soir.
Il a essayé de nouveau de durcir la législation sur les armes à feu. Le bras de fer a duré des mois et le Congrès a bloqué. Et j'avoue que depuis, quand je vois, quand il y a une nouvelle fusillade, un nouveau massacre, et que je vois de nouveaux papiers disant que ça relance le débat sur les armes à feu, j'avoue que j'y crois plus. Si on n'a pas réussi après Sandy Hook, avec 120 enfants de cours préparatoire, je ne vois pas quelles seraient les circonstances qui feraient que les Américains avancent sur ce dossier.
Il y a un reportage que tu avais fait dans une école sur la formation des enfants en cas d'irruption d'un tireur armé. Est-ce que tu peux nous le raconter ?
Oui, c'était en 2015 en Pennsylvanie, dans une petite ville. Il faut savoir qu'après Columbine, il y a des centaines et des centaines d'écoles qui ont mis en place ce genre de formation. On forme les enseignants, on leur apprend quoi faire quand il y a un tireur armé qui fait irruption dans une école. Il y avait une enseignante qui m'avait expliqué, elle m'avait dit « Moi, j'ai des élèves tout petits, ils ne savent même pas faire les lacets de leurs chaussures. Mais par contre, maintenant, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je vais leur transmettre parce que c'est très, très important dans le monde où on vit de leur apprendre tout ça. »
Kate Guillam, bonjour.
Bonjour.
Tu es journaliste vidéo à l'agence France-Presse, tu es anglaise et tu travailles au bureau de Londres depuis janvier 2019, après plus de 3 ans à Washington. Tu as couvert les 2 fusillades les plus meurtrières de l'histoire récente américaine à Orlando, dans la boîte gay Le Pulse en juin 2016, 49 morts, à Las Vegas en octobre 2017, 58 morts. Tu étais aussi à Sutherland Springs au Texas en novembre 2017, 25 morts, et à Pittsburgh après le massacre dans une synagogue, 11 morts. Après la tuerie homophobe d'Orlando, l'émotion était immense.
Exactement. La veillée était vraiment très, très, très forte. De toutes les veillées auxquelles j'ai assisté, moi, c'était une qui m'a vraiment marquée. Et l'autre chose qui m'a vraiment marquée, c'est on est allé dans une des églises qui faisait une veillée aussi, plutôt évangélique, pas forcément connue pour leur accueil des LGBT. J'ai parlé à plein de gens qui disaient que là, ils avaient changé d'avis. Non, on n'est que des êtres humains, on les soutient, je ne les soutenais pas avant. Et ça m'a vraiment marqué comment, à quel point ça a changé la vie de gens, parce qu'ils étaient tellement marqués par cette attaque.
Et je me demandais, est-ce que c'est difficile de se faire accepter avec une caméra quand on arrive pour couvrir ce type de drame ?
Ça dépend. À Orlando, très accueillant, parce que justement, c'était une communauté qui se sentait très visée. Et du coup, ils étaient vraiment très pro-parler, même en caméra. Après, il y en a d'autres, notamment Sutherland Springs au Texas.
Où un homme a abattu 25 personnes dans une église.
Exactement. Où c'était une communauté très petite, très refermée, où il y avait beaucoup, beaucoup de caméras, vachement plus que la population de la ville.
Parce qu'il y a quoi ? Il y a environ une centaine
d'habitants ? À peu près 600 habitants. Et il y avait juste... Enfin, il y a une route principale et toute la route était prise par des camions, des caméras, des journalistes qui faisaient du porte-à-porte. Et du coup, on frappait à leur porte 17 fois par jour. Clairement, ils en avaient marre. Et il y en a quelques-uns qui ont bien voulu s'exprimer. Pour eux, c'était vraiment trop traumatique.
Et est-ce que justement, tu as quand même gardé des souvenirs d'interviews ou des rencontres marquantes ?
Alors, le premier qui m'a un peu marqué, c'était le shérif, qui est un énorme monsieur et qui avait vraiment le Texan. Chapeau de cow-boy avec les bottes et tout, avec des fusils à la hanche. Et justement, en interview, tout le monde lui parlait d'armes à feu et tout ça. Mais forcément, dans cette fusillade en particulier, tu avais un peu ce scénario de le tueur a été pourchassé par un local qui avait lui aussi une arme. Et du coup, lui disait, ben voilà, un bon exemple de, ben au fait, c'est pas les armes, c'est comment tu l'utilises et la personne derrière. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est la première fois que quelqu'un l'a dit tellement clairement et tellement rapidement après une fusillade. C'était pas des hommes politiques à Washington qui le disaient, c'était un mec sur place qui connaissait tout le monde qui était mort et qui l'a dit moins de 24 heures après que ça s'était passé.
Je me sens si mal pour ces enfants qui sont morts. Ils ne peuvent pas se réveiller ce matin, se maquiller comme je l'ai fait, ni tomber amoureux ou avoir des enfants. Je me sens si coupable et si chanceuse en même temps de pouvoir le faire.
Katie, tu t'es rendue à Parkland après la fusillade le jour de la Saint-Valentin 2018 dans ce lycée de Floride où un ancien élève a tué 17 personnes. Cet événement t'a marqué ?
Oui, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. La première chose que j'ai fait, c'était d'aller à la maison d'une étudiante qui était étudiante à Parkland, 13 ou 14 ans. elle nous parlions de ce qui s'est passé à elle et ses amis. Et elle était cachée dans sa classe avec ses camarades. Et elle a décrit les sons qu'elle a entendus de l'arme à feu. Elle a décrit le moment où elle sortait du bâtiment et regardant des corps sur la terre de ses camarades. C'était horrible. Hein. C'était très difficile de ne pas pleurer.
Et justement, en tant que journaliste, tu fais comment pour prendre un peu de distance?
Oui, c'est une balance qu'on doit faire qui est très difficile quelquefois. Et je pense que peut-être pour moi un peu plus difficile parce que moi, je suis américaine, donc c'est un peu plus proche. Ça pourrait être un de mes amis, mon frère, qui était au lycée quand ça s'est passé. Donc, c'est difficile parce que tu es là pour faire quelque chose de très important, mais aussi quelquefois, il y a un sentiment de envahir un peu la vie privée de ces victimes, de ces personnes, parce qu'à la fin de la journée, toi, tu peux partir, tu peux rentrer chez toi, et eux, ils doivent vivre avec ça pour toujours.
Ces élèves du lycée de Parkland, ils t'ont parlé de politique ?
Oui, bien sûr. Immédiatement, j'étais frappée par l'intelligence, la puissance de ces élèves de parler de politique, même dans des moments juste après une tragédie. Ils ont commencé à parler d'un changement nécessaire des lois.
Just knowing that someone could do this, savoir que quelqu'un a pu faire une chose pareille car il avait accès à des armes, nous, les étudiants, nous devrions interpeller directement le gouvernement pour leur demander, les supplier d'apporter des changements aux lois sur les armes.
Changes to the policies in our guns with our guns.
Au début, leur mouvement s'appelait Jamais encore, never again. Et la mois après, ils sont venus au Capitole, tu sais bien.
Et donc justement, parle-moi de cette March for Our Lives, la marche pour nos vies. Tu as couvert ça aussi?
Ouais.
Et donc c'était quoi?
Il y avait des millions de personnes dans tout le pays. Ce qui était le plus important pour moi, c'était que voici ce mouvement qui était fondé par des étudiants en Floride. Et maintenant, un mois après, on est à Washington, D.C. Il y a des millions peut-être de personnes et des générations totalement différentes. Tu avais des personnes très vieux, tu avais des petits-enfants.
I have a dream that enough...
J'ai un rêve. Assez, c'est assez. Et cela devrait être un monde sans armes, point.
Tu avais des personnes noires, des personnes blanches, des personnes hispaniques. C'était une vraie mouvement qui veut dire que ce problème touche tous. Et c'était fondé par ces étudiants. C'était impressionnant, bien sûr.
Sébastien Blanc, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors tu es l'un des responsables de l'AFP au bureau de Washington et dans une vie antérieure, il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais reporter justice aux États-Unis pour l'agence. J'aimerais qu'on s'intéresse à la Floride puisque c'est là que deux des dernières grandes fusillades ont eu lieu. On surnomme cet état le Gunshine State. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Alors c'est évidemment un jeu de mots avec Sunshine State puisque la Floride, c'est un peu l'état connu pour son ensoleillement toute l'année. C'est aussi un état où les armes à feu pullulent et elles sont très facilement accessibles, notamment, hélas, aux auteurs de violences. La Floride, c'est environ 21 millions d'habitants et il y a environ 1,9 million de permis de port d'armes, c'est-à-dire c'est énorme le ratio par rapport au nombre de la population. Malgré la répétition de ces tragédies, les habitants continuent à manifester régulièrement leur attachement au droit à détenir une arme à feu, qui est garanti par le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. C'est un État où la NRA est très active, premier lobby des armes, est très puissante, avec un excellent relais auprès des hommes politiques. Et malgré la mobilisation d'une grande partie de la jeunesse après la fusillade de Parkland en 2018, eh ben, très peu de choses ont bougé dans l'État.
Et au Congrès, il y a quand même eu une mesure récemment qui a été adoptée, c'est l'interdiction des bump stocks. C'est quoi ?
Les bump stocks, c'est des dispositifs, en fait, des espèces de crosses amovibles qui permettent aux fusils d'assaut de tirer pratiquement en rafale, car il y a une restriction aux États-Unis, on ne peut tirer qu'avec des armes semi-automatiques. C'est quand même des variantes d'armes militaires qui permettent de tirer à des cadences très, très accélérées. Le bump stock permettait d'accélérer encore ces vitesses de rafale. On l'a vu notamment à Las Vegas, où le tueur était équipé de plusieurs fusils d'assaut, eux-mêmes dotés de bump stock. Et ça a été absolument dévastateur.
Ça veut dire que l'administration Trump prend en considération la violence des armes ? Ou pas vraiment ? Ou c'est une mesure minimale ?
Je dirais que c'est une mesure totalement minimale. C'est une mesure qui ne suscitait pas vraiment l'opposition de la NRA. Les tireurs n'y étaient pas non plus opposés. Trump, sur l'essentiel, n'a absolument pas changé. Il n'a absolument pas remis en cause les fusils d'assaut. C'est une question essentielle. Ils sont actuellement légaux dans une quarantaine d'États américains.
Et tu as aussi écrit sur la doctrine du « good guy with a gun », du « mec bien avec une arme ». Est-ce que tu peux nous expliquer cet argument, Sébastien ?
C'est un argument qui en est fait beaucoup développé par le lobby des armes, qui est confronté à un problème majeur, qui est le suivant. Contrairement à d'autres objets qui peuvent se révéler à l'usage dangereux, comme une voiture, si on a un accident, ou un couteau de cuisine, si on dérape, l'arme à feu est, elle, conçue pour tuer, que ce soit à la chasse, à la guerre. Et donc, il faut essayer d'enlever cette dangerosité intrinsèque de l'arme à feu en essayant de convaincre la population américaine que si on la place entre de bonnes mains, elle ne sera pas dangereuse.
La seule chose pour arrêter un méchant avec une arme, c'est un type bien avec une arme.
Est-ce qu'on a des idées reçues sur les armes à feu, sur la violence des armes aux États-Unis ?
C'est vrai que c'est un peu déformé par l'énorme couverture médiatique. À l'étranger, on parle beaucoup des fusillades aux États-Unis et ça donne en effet des idées reçues. La première étant que ces tragédies concernent des gens qui tombent au hasard. C'est rarement le cas, en fait. On a toujours cette image d'un meurtrier pris d'un coup de folie qui va rentrer dans un endroit public, qui va vider ses chargeurs à l'aveugle et faire une multitude de victimes qu'il ou elle ne connaissait pas. En fait, les études, les statistiques montrent que dans l'extrême majorité des cas, les tireurs ont une connexion directe avec leurs victimes. Il faut ajouter que plus de 2/3 des faits surviennent dans des domiciles privés. Et les victimes sont fréquemment des proches du meurtrier, notamment les compagnes féminines, les femmes. Une 50aine de femmes sont tuées chaque mois aux États-Unis par leur partenaire intime.
Je dirais que les armes à feu, c'est dans l'ADN des Américains. Il faut se souvenir comment ce pays a été créé. Et il s'est construit sur une méfiance du gouvernement fédéral qui est toujours vivace. Il faut non seulement pouvoir se défendre contre un agresseur, contre une situation imprévue ou dangereuse, mais éventuellement contre le gouvernement fédéral qui pourrait se retourner contre ses citoyens.
Est-ce que c'est difficile aussi à comprendre pour nous, en tant qu'Européens et en tant que Français ?
Oui, je pense qu'on a du mal à comprendre le rapport aux armes. Pour eux, ils ne se posent même plus cette question. Ils sont dans un monde où il y a effectivement énormément d'armes à feu. Et maintenant, leur questionnement, c'est comment se protéger contre les tueurs. Ils ne remettent pas en cause le fait qu'il y a 392 millions d'armes à feu aux États-Unis pour 320 millions d'habitants. C'est colossal. Mais eux, maintenant, ils sont au-delà de ça. Il n'y a même plus de débat sur cette réalité-là.
L'épisode 6, c'est fini. Un grand merci à Brigitte Dussault, Cathy Schubauer, Kate Guillam et Sébastien Blanc pour leurs histoires et leurs éclairages, à Hervé Rouache pour le soutien et à Lucie Aubourg qui a fabriqué avec moi ce numéro 6. Si vous appréciez nos fragments d'Amérique, faites passer le mot. À très bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.